Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. On commence avant tout ça avec quelques infos. Bonjour Léa.
Bonjour Baptiste.
Depuis lundi, des militantes féministes se mobilisent devant les consulats et ambassades polonaises en France.
Demain, le 11 avril, doivent avoir lieu des débats cruciaux en Pologne pour le droit des femmes à avorter. Ce jour-là, le Parlement polonais doit examiner plusieurs propositions de loi sur l'IVG. Pour la journaliste et militante Alice Coffin, l'issue de cet affrontement politique sera déterminant pour une évolution des lois actuelles, particulièrement inhumaines, qui ont entraîné la mort de plusieurs femmes en Pologne. La Pologne est devenue l'un des pays les plus restrictifs d'Europe concernant l'accès à l'IVG. L'avortement n'y est autorisé que si la vie d'une mère est en danger ou si la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste. Dans la pratique, selon Amnesty International, il est quasiment impossible pour les personnes éligibles à un avortement légal de l'obtenir. Il y a seulement 121 avortements réalisés en 2022, du moins officiellement. Hier à Bordeaux, devant la mairie, plusieurs dizaines de militantes ont soutenu l'accès à l'IVG pour tous en Pologne, selon le Sud-Ouest. La veille, elles étaient devant le consulat de Pologne à Mérignac.
Et puis hier, toujours, le conseil municipal de Bordeaux a voté un nouveau protocole de partenariat pour l'opération d'aménagement Euratlantique qui s'étend donc sur Bordeaux, Bègles et Floirac.
Oui, la mairie s'engage à y investir 150 millions d'euros afin de permettre la construction de non pas 10 000 logements, mais 15 000 logements sur la partie bordelaise d'Euratlantique, dont la fin des travaux est prévue pour 2040. Le projet a été voté par la majorité écologiste du conseil municipal parce qu'il dit prévoir 35 à 40% de logements sociaux. Cependant, la direction d'Euratlantique a maintes fois été interpellée par le collectif Amédée Sacré-Cœur qui dénonce la bétonisation massive de ces lieux et le manque d'espace vert dans le projet. Le collectif avait proposé un plan alternatif qui n'a pas été validé par Euratlantique. Philippe Poutou, élu d'opposition au conseil municipal de Bordeaux, et Myriam Eckert du collectif Bordeaux en lutte ont critiqué cet accord comme inadapté aux demandes des habitants du quartier.
Après le vote de la proposition de loi contre les PFAS à l'Assemblée nationale, c'était jeudi la semaine dernière, le combat contre ces molécules polluantes et dangereuses pour la santé se poursuit.
Oui, hier mardi 9 avril, le site industriel d'Arkema à Oulins-Pierre-Bénite a fait l'objet d'une perquisition par l'Office de lutte contre les atteintes à l'environnement. Selon France 3, une autre perquisition aurait aussi lieu chez l'industriel Daikin. Ces deux groupes font l'objet d'une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui suite à une plainte déposée par le maire d'Oulins-Pierre-Bénite et une assignation en justice par la métropole de Lyon concernant l'effet des perfluorés sur la qualité de l'eau. L'audience de cette procédure se tiendra le 28 mai prochain. Dans le même temps, Nicolas Thierry, le député écologiste de Gironde, à l'origine de cette proposition de loi contre les PFAS, a déposé un signalement auprès du déontologue de l'Assemblée nationale. Selon lui, le groupe SEB aurait menti aux parlementaires en avançant le chiffre de 3000 emplois menacés si le texte était adopté. En effet, l'effectif total des deux usines SEB concernées n'atteindrait pas les 3000 et certaines des productions qui en sortent ne contiennent pas de PFAS.
Et puis, 17 personnes ont été arrêtées, c'était lundi, dans le nord de la France, lors d'une opération menée par les services antiterroristes.
Cette vague d'arrestations a visé les participants et participantes à l'action d'une centaine de personnes contre une centrale à béton, la Fargue, à Val-de-Reuil, qui avait eu lieu en décembre dernier dans le cadre des mobilisations contre l'entreprise Lafargue, initiées par plus de 200 organisations écologistes syndicales contre la bétonisation des terres. Selon le média reporter, je cite, « Les militants avaient envahi le site, tagué quelques bâtiments, jeté les documents des bureaux par les fenêtres et vidé quelques sacs de pigments de coloration pour béton et des barils de sable. » 17 militants ont été arrêtés et emmenés dans les locaux de la sous-direction antiterroriste de Levallois-Perret. Un appel à soutien et à rassemblement a été organisé à Rouen ce mardi à 18h devant le palais de justice, ainsi qu'à Levallois-Perret, devant les locaux de la sous-direction antiterroriste, et à Caen, devant la préfecture.
Et puis on termine avec deux autres appels à soutien sur Bordeaux.
Oui, ce mercredi à 14h, le Club 33 appelle à un rassemblement de soutien devant le tribunal de Bordeaux, rue des Frères Bonny, suite à l'arrestation et la mise en garde à vue en septembre dernier de la militante et conseillère municipale Myriam Eckert. Une assemblée anti-CRA aura aussi lieu ce vendredi 12 mars à l'Athénée Libertaire. Une invitation à échanger sur l'historique des mobilisations et sur les différentes manières de lutter contre ces lieux d'enfermement. Un temps de discussion qui portera notamment sur l'ouverture d'un nouveau centre à Mérignac, prévu pour 2025. L'assemblée se tiendra à 19h dans les locaux de l'Athénée et sera suivie d'une cantine à prix libre.
Merci beaucoup Léa pour toutes ces informations. Midi 16 sur la clé des ondes, c'est le plat de résistance. On parle de lutte contre les pesticides, on parle de comment on devient lanceuse, lanceur d'alerte et on est surtout très heureux de recevoir, d'accueillir dans notre studio ce midi Marylis Bibeyran. Bonjour Marylis.
Bonjour.
Alors tu étais ouvrière viticole, je ne sais pas si tu l'es toujours d'ailleurs.
Non.
Tu as arrêté. Tu es né et tu as grandi dans le Médoc. Le 12 octobre 2009, ton frère Denis est mort d'un cholangiocarcinome, une tumeur des voies biliaires intrahépatiques, dont ça se situe dans le foie, qui s'était ensuite répandue. Il était lui aussi ouvrier viticole. Et suite à sa mort, et pendant plus de 10 ans, tu t'es battu pour faire reconnaître cette maladie comme étant liée à son travail. Tu es devenue lanceuse d'alerte sur les dangers des pesticides. Depuis 2022, tu t'es mise en retrait de cette activité militante, mais on te reçoit aujourd'hui parce que tu publies un livre, un récit de toute cette période. Ça s'appelle « On vous le dira dans 20 ans ». C'est sous-titré « Pesticides, vin et bouche cousue ». Et c'est publié chez BBD Éditions, un petit éditeur qui travaille notamment sur les sujets liés au vin. Ça paraît après-demain, vendredi, dans toutes les bonnes librairies. Et je pense qu'on peut déjà le précommander sur Internet. On va revenir un peu sur toute cette histoire, ton histoire depuis 2009. En commençant par donc, celle de ton frère Denis qui décède. Et comme tu le racontes dans les premiers chapitres du livre, c'est pas une évidence de se battre pour faire reconnaître le lien entre cette mort et les pesticides. Qu'est-ce qui a fait que petit à petit, tu t'es dit, mais si, là, il y a quelque chose à obtenir, il y a un combat à mener, il y a une reconnaissance à obtenir, Marylis Bibeyran.
Donc, je voudrais d'abord faire une petite précision sur la sortie du livre. En fait, le 12 avril commence la présentation du livre sur le Médoc. C'est une avant-première qu'on réserve au territoire du Médoc, chez moi, l'épicentre de tout ça, de tout ce dont on va parler, de tout ce qui est dans le livre. Je serai donc dimanche 14 avril à la fête du livre à Soulac en dédicace. Et le mardi 23 avril au centre Leclerc de l'Espart. Donc voilà, à partir du 12, le livre sera disponible sur ces événements-là. Et à partir du 24 avril, il sera disponible à l'échelle nationale, donc là, dans toutes les librairies.
Ok.
Voilà, je vous tenais quand même à apporter cette petite précision-là qui date de ce matin. Je ne pouvais pas communiquer avant là-dessus.
Donc pas dans
les choses
les
se sont précisées.
Vendredi,
voilà, c'est une exclusivité aussi pour vous. Et c'est aussi un concours de circonstances ou de dates, hein, parce que donc le livre sera disponible, je l'ai dit, à l'échelle nationale le 24 avril. Il faut savoir que la semaine du 22 au 25 avril, ce seront les primeurs sur Bordeaux. Donc, c'est pas une mauvaise chose, on va dire. Hein. C'est un petit clin d'œil. Je pense qu'ils apprécieront.
Les primeurs, c'est les vins sortis de bouteilles.
Voilà, c'est la présentation du dernier millésime. C'est un événement typiquement bordelais, très important sur la place viticole bordelaise médocaine. Donc, c'est très bien. Ça tombe très bien.
Parfait. Voilà. Alors, revenons un peu sur cette histoire.
Pour revenir à tes propos, je ne me suis pas levée un matin en me disant tiens, je vais faire ça, je vais devenir lanceuse d'alerte. 2009, 2011, je ne connaissais pas cette notion de lanceur d'alerte déjà.
Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est aussi dans une région, le Médoc, où règne l'omerta sur tous ces sujets et où personne ne parle.
On est sur un territoire où beaucoup de familles sont à l'image de la mienne, c'est-à-dire beaucoup de membres travaillent dans la viticulture ou sont eux-mêmes viticulteurs. C'est des territoires où tout un chacun a plus ou moins un lien avec cette viticulture, cette puissance locale. Mon frère est donc mort, oui, le 12 octobre 2009, après avoir travaillé 24 ans dans la même propriété viticole listracaise. Il a effectué les traitements et entre les traitements, il effectuait les tâches manuelles propres à chaque travailleur des vignes dans les parcelles qu'il venait de traiter. Donc, il était vraiment exposé à tous les niveaux. Et il est décédé donc d'un cholangiocarcinome, qui, ça non plus, on n'avait jamais entendu parler de ce type de cancer, et pour cause, il était présenté comme très rare, ne frappant que, enfin que, essentiellement, les hommes âgés de plus de 70 ans, ayant séjourné dans des contrées asiatiques, tropicales, absolument pas le profil de mon frère. Donc ça, ça interroge de suite. D'ailleurs, mon frère, le 11 décembre 2008, quand il a été diagnostiqué, quand le cancérologue lui a dit en face de lui « Voilà, vous avez ça », première réaction de mon frère, c'est demander si c'est lié au produit de la vigne.
Ah oui.
Voilà. Et ça continue de nous interroger, mais mon frère, il a eu que 10 mois de survie avec son cancer et dans des conditions que vous imaginez, quoi. Donc, ça reste en suspens, mais l'urgence, elle est ailleurs. Et il essaye d'en savoir plus, il interroge donc son médecin, il interroge son employeur, tous bottes en touche et voilà, ça restera là. Sitôt son décès, on est quand même abattu. Voilà, ce n'est que à peu près pas loin d'un an après, finalement, que j'en viens à avoir ce besoin de refaire le film et de me reposer la question, de me dire mais pourquoi, comment, il fumait pas, il buvait pas, il travaillait au plein air, il le disait lui-même, je comprends pas parce que je pensais avoir une vie saine. Et même quand il a su donc ce qu'il avait et il pensait bien s'en sortir, vaincre sa maladie parce qu'il se disait j'ai un corps sain, donc c'est quand même un sacré avantage pour combattre. Bon, ça n'aura pas suffi malheureusement. Mais donc, c'était incompréhensible. Et surtout avec ce type donc, de cancer. Et j'ai essayé un peu de regrouper tous ces éléments. J'ai fait quelques recherches. Je suis tombée sur un article de presse voilà, dans un magazine qui faisait témoigner des habitants et une travailleuse des vignes exposée aux pesticides. Et là, quand je vois ça, ça c'est en décembre 2010, je me dis, mais on parle de nous, quoi. Et jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais lu un article de presse sur le sujet, sur les pesticides. On savait ce que c'était parce qu'on travaillait dans les vignes. On était logés jusqu'en 1992 au milieu de la propriété viticole qui employait mon papa, cernés par des hectares et des hectares de vignes. Donc on les voyait, les tracteurs qui pulvérisaient, on les sentait, on voyait les bidons, etc. Même si, quand on posait des questions, on essayait de nous rassurer en nous racontant n'importe quoi. Et à partir de ce dossier, donc, il y a des données, il y a des associations qui sont citées. J'essaye, je vais dans ce sens-là, je creuse. Et à partir de là, je me rends compte qu'effectivement, il y a bien quelque chose. Et on est loin d'être tout seul. Voilà, et à partir de là, je me pose plus de questions, par contre. C'est une évidence.
Est-ce que ça veut dire que c'est comme si, même si ce n'était pas verbalisé, c'était une sorte de crainte qui était un peu là, l'attente qui était dans l'air quand même, et qu'il a fallu que quelques articles au final, et se dire, on n'est pas seul, ça arrive à d'autres, et ils le disent pour que, hop, ça y est, tu te lances.
Oui. Je pense qu'on a toujours su. Je pense que mon frère, c'est pas un hasard s'il a posé cette question. Il savait pertinemment, il n'a pas eu le temps, c'est tout. Et puis, c'était certainement compliqué de se dire que, voilà, c'était son travail. Et quand il s'était fait duper et tout ça. Et oui, c'était dans un coin de la tête, c'était là, et il fallait juste laisser le temps au temps. Voilà, et que ça émerge. Ah. Et à partir du moment où ça émerge, où je regroupe tous ces éléments, alors là, la question d'y aller ou de ne pas y aller ne se pose pas. C'est juste une évidence.
Et donc, c'est le début de ce long combat qui a plusieurs facettes, mais dont une facette judiciaire. D'abord avec la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, puis devant les tribunaux. Peut-être, en deux mots, donc il y a eu plusieurs étapes. Ça a duré jusqu'en 2018, c'est ça, où il y a un refus de... Donc, vous êtes pris que des vents, que des portes qui sont fermées devant vous. C'était quoi les arguments utilisés? Qu'est-ce qui a fait que cette démarche-là, devant la justice, elle n'a jamais pu aboutir? globalement ?
Alors, la procédure est ouverte officiellement le 31 mai 2011, avec le certificat médical initial délivré par le médecin généraliste de mon frère, M. Alain Parfondry, à qui je rends hommage également dans le livre, parce que j'ai eu de la chance que ce médecin soit juste formidable, soit humain, soit à l'écoute, et que quand je suis allée le voir pour lui dire mes soupçons, il était déjà lui-même convaincu. Et il m'a proposé son aide et il a tenu parole. Il est venu à mes côtés pour l'expertise dossier médical. Il est venu sur des événements sur le Médoc, etc. J'ai eu la chance d'avoir ce monsieur à mes côtés. Et donc, 31 mai 2011 jusqu'au 29 novembre 2018, effectivement, au rejet du pourvoi par la Cour de cassation. Donc, on est passé par les organes internes, on va dire, à la MSA, C2RMP, Comité Régional Reconnaissance et Maladies Professionnelles. Mm-hmm. Ça, c'est, une commission interne à la MSA qui statue sur les demandes de maladies professionnelles hors tableau, ou en tout cas qui ne rentrent pas dans les conditions. Donc, nous, on a. En fait, le souci, c'est que dans le cas de mon frère, tout était contre nous. C'était un travailleur des vignes, c'est rarissime. La plupart du temps, les personnes qui demandent reconnaissance maladie professionnelle sont des viticulteurs eux-mêmes. Donc, d'accord, ils ont déjà toutes les informations.
Ils savent les produits qu'ils ont utilisés.
C'était donc pas le cas de mon frère. C'est un titre post-mortem. C'était sur le Médoc, Bordeaux. C'est un cancer rare, hors tableau. Enfin, nous, on a cumulé tous les handicaps, quoi.
Ça veut dire peu d'informations pour tous ces éléments. C'est peu d'infos sur ce cancer, hors tableau. C'est
une liste des produits totalement incomplète, hein, parce que mon frère avait travaillé chez le même employeur. Ça, c'est un avantage. C'est qu'il avait une carrière professionnelle linéaire, très simple. Un seul employeur comme interlocuteur, mais malheureusement, c'était pas le bon. Et il a fourni une liste des produits avec calendrier de traitement attestant de l'utilisation des 10 produits de 2000 à 2008, alors que mon frère avait travaillé à partir de 1984. Donc les années sur lesquelles il a été exposé dans les conditions où il n'y avait pas d'équipement de protection, où il a utilisé des pesticides qui sont interdits maintenant, qui ont été reconnus dangereux, cancérigènes, mutagènes, reprotoxie, perturbateurs endocriniens, tout ça, c'était pas, on l'avait pas. C'est comme si 16 ans d'exposition qui avait été rayé de la carte, quoi.
Et ça a pesé, bien sûr, au moment des procédures.
Mais bien sûr, parce que c'était toujours un gros manquement. Les juridictions s'appuyaient sur les éléments qu'on leur fournissait. Ça, c'est logique. Mais ce qu'on peut leur reprocher quand même, c'est d'avoir jamais pris les mesures. Ça te donnait les moyens de requérir ce qui manquait, les éléments manquants. Et donc, effectivement, c'est une succession de décisions négatives. C'est à chaque fois un nouvel espoir, c'est de l'énergie, c'est de l'attente, c'est des désillusions, c'est à chaque fois rebondir, c'est compliqué. C'est à chaque fois essayer de trouver l'élément qui va faire basculer en notre faveur. Ça dure 7 ans et demi pour arriver à la décision abjecte de la Cour de cassation qui dit qu'il n'y a pas matière à examiner le pourvoi. Et ça, c'est terrible. Ce pas matière, c'est très, très difficile. Ça a été la décision la plus difficile à intégrer pour moi. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas suffisamment important. Ça veut dire que c'est un travailleur des vignes. Donc, on passe. Voilà.
Et ça permet de...
Et puis, c'est la fin, surtout.
Voilà
c'est semaine 9 de novembre 2018, je sais que c'est la fin. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Ça c'est l'aspect procédural. Après il y a eu
pendant toutes ces années il y a eu d'autres choses.
Alors, sur le terrain,
toi tu te qualifies de lanceuse d'alerte pendant toutes ces années. Pourquoi c'est ce terme là je sais pas, tu aurais pu dire militante, anti-pesticide, je sais pas quoi. Pourquoi, enfin, j'ai l'impression que ça a une valeur particulière, ce terme là de lanceuse d'alerte, pour toi.
Alors c'est pas spécialement moi qui me qualifie de lanceuse d'alerte, c'est j'ai été qualifiée comme ça à partir du moment de l'émergence de cette dénomination plutôt, hein. C'est, je pense, le fait justement que j'ai mené cette double bataille sur le plan judiciaire et sur le terrain, quoi. Et d'abord non structuré, on va dire, avec déjà des personnes autour de moi. Et ensuite, à partir de février 2016, sous la dénomination et collectif Info Médoc Pesticides.
Alors c'est ça, donc ça, t'as commencé un peu toute seule, mais quand même assez rapidement, j'ai l'impression qu'il y a eu des démarches collectives avec notamment Valérie Murat, son association Alerte aux Toxiques. Par la suite, il y a eu Alerte Pesticides au Gironde, il y a eu l'asso Génération Future, des assos nationales aussi qui ont pu t'aider. Au cours de toutes ces années, il y a eu aussi pour toi l'accompagnement d'autres victimes comme Sylvie Berger, sur qui tu reviens dans le livre. Comment justement ça s'est fait ce truc-là de passer de Denis, ton frère, la reconnaissance maladie professionnelle, à quelque chose aussi de plus large et de plus localisé, et où bah, c'était aussi là l'enjeu, c'est que dans le Médoc, il y a cette omerta, et donc d'arriver malgré tout à en parler et à faire vivre cette bataille-là localement. Est-ce que c'était là aussi une évidence et quelque chose d'imparable, il fallait forcément passer par là? Ou est-ce que ça a été pour toi une démarche spécifique de te dire il faut mener cet autre front-là, collectif, local, pour tout le monde?
Alors en fait, j'avais un avantage quand même au départ. C'était à la fois un handicap et un avantage. Un handicap d'être sur un territoire, donc, comme j'ai dit, comme le Médoc, totalement sous, j'emploie ces termes d'ailleurs dans le livre, à la fin, un peu sous la tutelle de la viticulture locale. Et un avantage parce que le fait que j'ai baigné là-dedans tout le temps, je les connaissais. Je savais quel adversaire j'allais avoir en face de moi. Et le fait d'avoir aussi de sortir de 5 ans de droit, même si c'était en droit pénal, c'est pas forcément la bonne voie, mais je connaissais l'appareil judiciaire. Ça, c'est quand même, au départ, je sais de suite où je mets les pieds. Est-ce que je vais soulever, est-ce que je vais provoquer comme adversité, même si j'étais quand même en dessous de la réalité.
Puisque oui, tu es à la fois ouvrière viticole, donc tu connais très bien, tu vis dans le Médoc, tu connais parfaitement bien ce milieu-là, et en même temps, tu as été à la fac, tu as fait du droit, et donc tu as ce bagage-là aussi.
Voilà. Et donc, dès le début, je sollicite la presse, dès que j'engage la procédure, la presse locale, et parce que je sais que je vais avoir besoin de faire savoir et de soulever un tant soit peu les soutiens que je peux avoir. Mais dès le départ, j'ai eu cet élan populaire qui n'a fait que grossir, prendre de l'ampleur au fur et à mesure des années et encore plus à le collectif Info Médoc Pesticides. J'ai eu la chance d'avoir des personnes formidables autour de moi, notamment sur le Médoc à l'Istrac, Marie-Hélène Machado et Monique Escorne, qui étaient cofondatrices du collectif à mes côtés, qui ont toujours été là. Valérie Murat, avec qui, sur Bordeaux, avec qui j'ai énormément collaboré. Nous avons ensuite collaboré avec d'autres associations girondines. Après, les associations nationales, ça a été... beaucoup plus de manière isolée. C'était sur quelques enquêtes, quelques événements, voilà, mais pas en continu. Et je préfère rendre hommage à ces personnes-là et aux associations locales.
Et alors, encore une fois, tu parlais tout à l'heure d'évidence et que la question ne se posait pas quand il a fallu lancer toutes ces démarches. Mais où est-ce qu'on trouve l'énergie de faire tout ça? J'imagine que c'est un temps énorme consacré à ça. C'est, on va y revenir après, mais des bâtons dans les roues. C'est des gens en face qui vont contre vous. C'est une mentalité médocaine dominante que tu décris dans le bouquin qui ne veut pas parler de ça, qui ne veut pas faire de vagues. Où est-ce qu'on trouve l'énergie pour aller à l'encontre de tout ça, Marie-Lise Bibéran?
Ben après coup, je sais pas. En fait, je me suis rendu compte de beaucoup de choses après le 8 septembre 2022. Le 8 septembre 2022, je mets un terme officiel à mes activités militantes. Au niveau du collectif, on était déjà plus très actifs et ça faisait un moment que j'avais prévenu. Hein. Mais bon, là, c'est vraiment là, je communique officiellement, j'arrête. Et alors, c'est marrant parce que c'est 8 septembre 2022, c'est 11 ans, jour pour jour, après le premier article de presse relayant mes actions donc sur le Médoc. Sans aucun calcul de date, mais vraiment la boucle est bouclée. Et c'est à partir de là, là je décompresse complètement et je me mets en retrait. Je sors là d'un an et plus d'une année de pause complète, sans activité professionnelle. J'ai eu ce besoin. Et ça m'a permis aussi d'écrire ce livre. Et c'est, je sais pas, je des fois je suis surprise moi-même.
Ça se fait tout seul, ça veut dire, enfin quelque part c'est pas réfléchi, c'est pas
d'un coup, il y a une énergie comme ça qui t'emporte. Ah non, non, et c'est ce que je disais au début, je me suis pas levée un matin en me disant je vais faire ça, c'était une succession de prises de conscience, ça a été une évidence, et quand je suis dedans, il y a quasiment plus que ça, H24 quoi, ça pendant 11 ans, et c'est harassant. C'est usant, même si encore une fois, on s'en rend plus compte. Après, c'est comme si j'étais montée sur un ring et le match a duré 11 ans et je relève la tête après, quoi. Voilà, et l'énergie, c'était mon frère quand même. C'est d'une injustice totale, même si ce n'est pas la seule, hein, nous sommes tous... souvent confronté à ce genre d'injustice, c'est pas le seul qui déclare un cancer qui peut être dû à une cause de ce genre. C'est foudroyé dans la fleur de l'âge, enfin voilà. Mais je prends aussi conscience que cette problématique de pesticides, c'est la pointe de l'iceberg de la problématique des conditions de travail. Voilà. Donc, d'ailleurs, très rapidement, je mène les deux combats, c'est-à-dire contre les pesticides et pour l'amélioration des conditions de travail dans les vignes. C'est pour moi rapidement indissociable l'un de l'autre, et ça l'est toujours. Et je pense que l'énergie, je l'ai puisée dans mes convictions, quoi. Voilà, j'étais convaincue, j'ai très vite compris que il y avait ce lien là et que ça allait pas être le seul, malheureusement, que ça allait être une hécatombe et que c'était pas non plus que les travailleurs des vignes qui étaient exposés. La problématique des pesticides, c'est qu'on est tous exposés en fait, parce qu'on mange, par l'eau qu'on boit, par l'air qu'on respire. Là sur Bordeaux, il y a eu des analyses à la qualité de l'air qui ont été faites, on a prouvé qu'il y avait des résidus de pesticides qui venaient jusqu'à Bordeaux, etc. Nous sommes tous exposés, donc en fait c'est un énorme scandale sanitaire à venir à ce moment-là. Et qui se confirme. Et voilà, l'énergie, je la puise dans tout ça, quoi.
Merci beaucoup, Marie-Lys Vibeyran.
Merci à vous.
Je
ne
sais pas si tu as un mot à ajouter sur tout ça.
Alors, j'ajouterai quand même que la préface du livre est signée de Martin Boudot, qui est un journaliste que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai collaboré sur... j'avais participé à un cache investigation qu'il avait réalisé. Il est spécialisé, lui aussi, dans tout ce qui est environnement. Maintenant, il est réalisateur de Vers de Rage et Planète Killers. Et voilà, je suis très contente qu'il ait ajouté son nom et sa signature au livre. Voilà, j'espère que ce livre témoignage aura un bon accueil et fera une belle route. Pour moi, il était essentiel et vital.
Et donc, on rappelle que tu seras dimanche à Soulac pour
oui,
le présenter.
Oui, tout à fait, pour la fête du livre.
Et le 23 avril à l'Espar.
Oui, au Leclerc de l'Espar, dans la galerie marchande, pour une journée consacrée aux écrivains du Médoc.
Merci beaucoup, Marie-Lys Vibeyran. On vous
Merci
le
à vous.
Dira dans 20 ans aux éditions BBD. Merci beaucoup, Marie-Lys.
Merci.
C'est la fin de notre point chaud pour aujourd'hui. Vous pouvez le réécouter en podcast sur laclédesondes.fr. On se donne rendez-vous demain à midi pour le plat de résistance et de nouvelles infos. D'ici là, ce soir à 21h30, vous avez rendez-vous avec Moez pour Trait d'Union jusqu'au bout de la nuit. Et avant ça, à 19h sur la Clé des Ondes, c'est au tour de l'autre parloir en compagnie de Lulu. Bonne soirée sur le 90.10 et sur laclédesondes.fr.
Vous êtes évidemment sur la clé des ondes 90.10 et la clé des ondes.fr. C'est la radio qui...